Cercavo la grande bellezza. Ma non l'ho trovata.
That's funny. That plains dust and crops where there ain't no crops.
I want to bring salvation. Father, take me back. Make a feast. Welcome me home. I want to be your son. I want to pay the price.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission de cinéma sur Transistor d'étoiles plein les yeux. Pour ce 20e numéro, oui déjà, c'est non pas un mais deux films qui sont projetés sur la toile sous les yeux attentifs et connaisseurs de Clément et Mathias qui m'accompagnent aujourd'hui. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Rémi.
Bonjour Rémi.
Et cette semaine, nous restons en France. Alors, avant de nous pencher sur le dernier film d'André Téchiné, nous commencerons avec L'avenir de Mia Hansen-Love. L'avenir pour Nathalie semblait assez clair et monocorde. Le prof de philo, impliqué à fond dans son travail, marié à un autre prof de philo avec qui elle a eu deux enfants. Elle passe son temps libre à éditer des essais ou à s'occuper d'une mère à demi folle. Mais son mari la quitte. Ses enfants sont grands, sa mère meurt, sa maison d'édition la lâche. Et face à cet avenir et ses évidences qui volent en éclats, c'est une liberté nouvelle qui s'ouvre pour la quinquagénaire. Liberté qui s'incarnera en Fabien, son ancien élève chouchou, brillantissime, normalien, anarchiste et nouvellement installé dans le Vercors pour y élever du bétail. L'avenir, ce sont ses angoisses, sa perte de repères et toute cette béance soudaine qu'il s'agit de meubler à nouveau pour redonner un sens à sa vie. Je m'arrête ici et me tourne vers vous, Mathias et Clément. Qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Alors, si je devais définir le film, ce serait d'abord un film français. Donc tout ce qu'il y a de plus français.
Ça oui.
Et non, mais avec voilà, un milieu petit bourgeois, intellectuel, parisien, avec des grandes bibliothèques, et dont les livres sont partie prenante de tout le film, donc dans une veine très nouvelle vague, cinéma français, tout ce qu'il y a de plus petit bourgeois, avec un côté aussi narratif ou une sorte de tranche de vie sans fin vraiment définie. Mais en même temps, ça marche. Enfin, ça marche parce qu'il y a de bons acteurs, il y a bon, un pari un peu de carte postale, mais qui est agréable à regarder. Le film se passe et on passe pas un mauvais moment.
Alors Clément, un mauvais moment ou pas ?
On passe peut-être pas un mauvais moment, mais je suis pas sûr qu'on en passe un bon en fait. Enfin, moi, c'est mon ressenti, c'est-à-dire que j'ai trouvé le film long, alors qu'il ne dure qu'1h40. Je l'ai trouvé assez décousu aussi, enfin... Il se passe des choses, voilà, la mère qui fait une énième tentative de suicide, le père qui trompe sa femme, voilà, il se passe des trucs sans vraiment de lien entre les différentes choses. Mon horizon d'attente a été complètement déçu, puisque moi je m'attendais à voir une romance entre Isabelle Huppert et puis son jeune premier. Donc à ce niveau-là, j'ai été extraordinairement déçu.
Mais non.
Oui, non. Moi, j'ai été extrêmement déçu. Et puis, merci le coup de la ferme anarchiste dans le Vercors parce que le Larzac, c'était devenu trop commun. Enfin, merci, quoi. Voilà.
Alors moi, je suis plutôt du côté de Mathias.
Moi aussi, je suis plutôt du côté de Mathias.
Mais... D'accord, mais t'as bien raison. Mais en voyant ce film, en effet, un énième film français avec des intellos et un côté carte postale, un énième film avec des bons acteurs qui jouent bien et une mise en scène aux petits oignons, un très très joli film, encore un. Et en fait, non, c'est quand même plus que ça, parce que comme tu dis Mathias, ça fonctionne. Et alors ça fonctionne beaucoup grâce au jeu d'Isabelle Huppert, qui est une actrice absolument monumentale, mais la mise en scène de Mia Hansen-Love est, je trouve, très très fine et pour moi ça fonctionne vachement bien aussi, ça dépasse justement ce côté carte postale et ce côté on place une ferme dans le Vercors parce que ça fait bien dans le paysage, et je trouve que tous ces éléments finalement prennent sens et la façon dont Mia Hansen-Love arrive à refermer le film sans trop le refermer non plus finalement donne un sens qui me semble intéressant à tout ce film.
Oui, parce que oui, tu te plaignais de la ferme dans le Vercors, mais ça se tient quand même dans le film, parce que le film s'ouvre sur une grève étudiante. Et y a tout ce lien thématique qui est tissé dans tout le film sur l'engagement de personnes intellectuelles au sens très large, des personnes qui ont un bagage, universitaire assez fournie. Elle, on comprend qu'elle était engagée dans les mouvements communistes dans les années 80, en gros. Elle en est revenue, parce que bah, voilà, elle s'est installée avec un mari qui, lui, est pour le coup très... voilà, l'incarnation du professeur de chaire supérieure, très, très sérieux et...
Très caricatural aussi.
Enfin, oui, très caricatural.
On a quand même eu un plan où on le voit sortir d'Henri IV en cravate. Bon.
Et ça existe
mais
aussi.
C'est un plan où il sort d'Henri IV en cravate et où d'un coup, la vie lui fait un croche-patte quand même.
Oui,
bien sûr, mais bon.
Il y a toujours cette forme de va-et-vient, d'aller et retour entre un ordre perdu et une forme de déséquilibre qui semble voué d'une certaine façon à perdurer. Oui. C'est peut-être justement un film sur ce déséquilibre. Tous ces objets un peu bancals, ces bouquets de fleurs qu'on n'arrive pas à mettre dans la poubelle. Et même Isabelle Huppert, qui, dans sa façon de se déplacer, dans ses mouvements, ça marque de façon très, très intelligente ce côté complètement désorienté.
Non, mais oui, c'est intéressant de ce point de vue, parce que oui, c'est la perte de repère complète, parce que par rapport, je reviens toujours sur le Vercors, elle voit son ancien élève qu'elle adulait, parce que c'est un élève brillant, et elle le voit continuer des luttes qu'elle a terminé, elle, parce que du coup, elle le dit clairement, elle a fini ce moment révolutionnaire. Elle, voilà, elle dit que son métier, c'est d'être prof, c'est de faire réfléchir des élèves, c'est pas forcément d'aller faire la révolution. Et elle est face à un mouvement de communauté autonome qu'elle ne comprend pas, et auquel elle a de la sympathie, mais auquel elle n'adhère pas, en fait, finalement. Et nous aussi, en tant que spectateurs, il y a une forme quand même assez, une forme de satire de ce milieu-là. Voilà, la révolution. Et je trouve que le film, d'un point de vue social, est quand même assez, assez pertinent. Et pas juste, on met une ferme dans le Vercors, parce que ça fait joli.
J'ai vraiment l'impression j'ai trouvé ça hyper caricatural. Ne serait-ce que tous ces moments intellectuels, en fait, dans le film, sont coulants. Moi, je me suis emmerdé en les écoutant.
Je trouve justement qu'il n'y a pas de lourdeur dans ces moments qui pourraient faire pensum assez facilement.
Moi, je trouve qu'ils font pensum, justement.
Alors après, oui, c'est une question de ressenti, mais justement, j'avais l'impression que c'était placé intelligemment. Enfin,
Le côté qui se fait, enfin tout ce qui se fait autour de l'intellectualisme, c'est très incarné parce que c'est des livres. Et c'est tout le rapport tu m'as volé mes Lévinas. Je sais pas. Et voilà, il y a tout ce côté très concret, en fait, de voilà, c'est quoi des gens qui sont des intellectuels, c'est des gens qui ont des livres et des gens qui ont une bibliothèque, et des livres, ça circule, c'est marchand, ça, il y a un côté très incarné, en fait.
Alors, en parlant de la perte de repère d'Isabelle Huppert, il y a aussi un thème qui finalement traverse le film en filigrane et sans jamais se poser vraiment frontalement. C'est la question de l'amour et de la séduction aussi. Parce que, alors, il y a cette forme d'impossibilité de l'amour pour Isabelle Huppert. La très légère rupture qui se manifeste à un moment lorsqu'elle est agressée dans la rue par cet homme qui la suit depuis le cinéma, mais rupture qui complètement, complètement inaboutie, forcément. Mais ce que tu disais, assez intéressant, Clément, c'est-à-dire que tu t'attendais à une romance avec ce jeune homme, et c'est présenté comme ça dans la bande-annonce, et c'est présenté comme ça dans le film, parce qu'il l'attend à la fin des cours, comme un petit ami vient attendre sa copine à la sortie d'un cours.
Il y a quand même cette scène où il se balade au parc, et où elle dit « Oui, non, mais de toute façon, je me remarierai pas, machin. Oui, mais si, tu vas en trouver un. Ouais, tu crois que je vais en trouver un de mon âge. Mais non, t'en trouveras un plus jeune. Hein ?» Wink, wink, wink. Enfin bon, merci. Et par contre, là, un moment où j'ai trouvé le film assez intéressant, c'est ce moment où elle s'engueule avec son jeune premier dans le Vercors, et où il lui dit oui, mais toi, de toute façon, t'as un mode de vie petit bourgeois. Et à la fin, elle va se mettre à pleurer dans sa chambre, dans son lit. Là, je me suis dit, ah, là, c'est peut-être intéressant, on va peut-être voir ce que ça va donner. Est-ce qu'elle pleure parce qu'il l'a remis en cause son mode de vie, ou est-ce qu'elle pleure parce que là, il lui dit en gros, non, mais de toute façon, on sera jamais ensemble. Moi, je l'ai un peu senti comme ça. Et. J'ai été déçu aussi à ce niveau-là.
Mais je pense qu'il y a une forme de séduction très, très platonique dans leur débat. Je pense qu'il y a quand même une dynamique de séduction entre ces deux personnages, même si c'est voué à rester dans les sphères éthérées du livre, justement. Et cet échange de livres qui se prête et qui s'offre perpétuellement, il y a quelque chose presque un érotisme du livre dans ce...
Oui. Je trouve qu'il y a aussi le rapport de séduction, mais aussi les rapports d'admiration et les admirations qui se brisent Parce qu'on peut imaginer que dans l'amont du film, on avait quand même une relation prof-élève, où l'élève quand même en admiration devant la figure de la prof. Et du coup, l'admiration se brise parce qu'il se rend compte que bah, cette prof-là, c'est une petite bourgeoise. Et inversement, cette femme-là, qui était en admiration devant le premier de la classe, avec un passé difficile, qui venait d'un milieu pas forcément très facile, et qui quand même avait une sorte de facilité intellectuelle et une forme de brillance, et qui elle se rend compte que ce type-là se retrouve un peu dans des écueils d'intellectuels de gauche, en fait, qu'elle a passé et qu'elle, elle ne supporte plus. Et donc ce jeu de rapport et d'admiration et de séduction qui se brise un peu.
Et ce jeu de rapport entre ces deux générations qui est là d'abord parce que c'est aussi un film sur le temps qui passe et cette volonté perpétuelle de filmer la vie comme elle est à son rythme par la structure en tableau qui est assez caractéristique, ces tableaux peut-être un peu décousus qui se succèdent. Et puis, il faut peut-être terminer avec la figure de la mère, cette insupportable mère, parce que c'est non pas un film sur deux générations, en fait, il y a bien une troisième génération,
oui, trois générations.
Et la génération de la mère est assez intéressante, la façon dont elle est montrée. Et autre chose d'assez intéressant, qui fait office un petit peu de filigrane dans ce film aussi, c'est le chat, qui est vraiment... Non, mais c'est vraiment oui, c'est le vrai. Chat qui porte toute la dynamique temporelle du film, et l'égarement du personnage principal.
Mais voilà, c'est intéressant, non. C'est un peu l'héritage aussi, parce que voilà, c'est un peu le seul héritage qu'elle a de sa mère, ce chat, et c'est un truc dont elle ne veut pas. Enfin, c'est, clairement, le rapport à la mère, c'est quelque chose dont on veut se défaire tout de suite, parce que c'est un parasite. Enfin, les deux sont des parasites, clairement. Enfin, elle lui parasite sa vie, et juste après sa mort, en fait, c'est... Et oui, je trouve ça intéressant de voir le rapport de conflit absolument... qu'il n'y a pas du coup inversement entre Isabelle Huppert-mère et ses filles à elle, qui sont des personnages assez absents du film.
Assez plats, oui.
Oui, non, pas plats, c'est juste qu'ils n'ont pas de...
Oui, ils ne sont pas très présents, oui.
Mais qui sont l'occasion d'une dernière scène, on peut le dire quand même, assez splendide et assez fine. Alors tu me contexteras peut-être l'adjectif, Clément, que moi, personnellement, j'ai trouvé d'une finesse assez intéressante dans la pudeur de la caméra qui n'insiste pas, qui se contente juste de frôler cette dernière scène avant de partir sur le générique.
Ouais, disons que, encore une fois, moi, j'ai eu le sentiment que cette dernière scène était la dernière scène, mais la scène précédente aurait tout aussi bien pu être la dernière. On aurait pu en mettre une autre de l'autre côté, ça aurait aussi été la dernière scène, le générique aurait pu se lancer. Si tu veux, ce que je reproche à ce film, c'est que c'est un film sur lequel je pense qu'il est intéressant de parler, mais il y a un élément perturbateur qui arrive au bout d'une demi-heure de film, le moment où son mari la quitte, alors que c'est quand même l'élément perturbateur du film. Il n'y a pas vraiment de fin, et je me suis quand même ennuyé.
Mais on laissera ça à nos spectateurs de contraint. Je suis désolé, tu as quand même perdu, Clément. Et on passe donc au deuxième temps de cette émission avec « Quand on a 17 ans » d'André Téchiné.